Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire consacrés à la Renaissance. Nous avons traité de l'art de la Renaissance et de son inspiration antique, nous avons parlé toujours de l'art de la Renaissance et de son sens de l'innovation. Nous allons désormais aborder le grand personnage qui illustre cette Renaissance. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Léonard de Vinci. Hugues Dossy, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons avec plaisir à ce micro afin d'évoquer ce personnage. Vous êtes professeur d'histoire moderne, Hugues Dossy, à l'université de Franche-Comté, grand spécialiste de la Renaissance, mais aussi du protestantisme. Hugues Dossy, qui était ce personnage, Léonard de Vinci, né en 1452 et mort en 1519?
Alors, Léonard de Vinci est un artiste italien, un Florentin, qui est finalement particulièrement représentatif de la Renaissance, de l'humanisme et plus particulièrement de l'art de la Renaissance. C'est un personnage qui a marqué son époque, et quand on pense à l'art de la Renaissance, on pense invariablement à Léonard de Vinci, avec d'autres, hein, mais beaucoup à lui. Et le paradoxe, c'est que ce personnage qui est resté si célèbre a laissé très peu d'œuvres. On a seulement une quinzaine d'œuvres de lui qui ont survécu, mais ce sont des œuvres emblématiques, des œuvres marquantes. On pense par exemple à la Joconde, hein, bien sûr, à la Seine, à la Vierge au Rocher. Et c'est donc un personnage qui a laissé une trace très vivante, non seulement parce qu'il était peintre, mais aussi parce que c'était un inventeur dont on a tous en tête les fameuses maquettes, les fameuses innovations qui font de lui une sorte de visionnaire.
Alors nous avions le prince des humanismes avec Erasme, que je vous invite à découvrir sur Storia Voce, avec l'historienne Marie Barral-Baron, que vous connaissez bien. Est-ce qu'on peut le qualifier de prince de la Renaissance? Et j'irai même plus loin, est-ce qu'on peut dire que Léonard de Vinci était un révolutionnaire dans le sens propre du terme, avec un monde d'avant et un monde d'après? Est-ce que les choses se sont faites différemment après Léonard de Vinci qu'elles ne se faisaient avant?
Alors ce serait un peu excessif de dire ça, dans la mesure où Léonard de Vinci est le portrait type, en fait, de l'humaniste. C'est le portrait type de l'humaniste parce qu'il incarne mieux que quiconque le décloisonnement des disciplines. Et en cela, il n'est pas particulièrement original, sauf que lui pousse ce décloisonnement des disciplines dans ses manifestations les plus brillantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Léonard de Vinci, c'est bien sûr un artiste, c'est un peintre, mais c'est aussi en même temps un lettré, un scientifique, un philosophe, un mathématicien. C'est un homme absolument complet qui s'intéresse à tous les domaines, et tous ces domaines viennent nourrir son art, viennent nourrir sa conception artistique et ses capacités techniques. Et parmi ces obsessions, j'allais dire, se trouve l'anatomie. L'anatomie parce que il considérait, on l'a vu dans une précédente émission, il considérait que pour représenter l'homme, il fallait parfaitement le connaître.
Alors que peut-on dire justement de cette passion pour l'anatomie?
Alors cette passion pour l'anatomie, on va dire en quelque sorte qu'elle est un peu contrainte, parce qu'il écrit lui-même dans ses carnets, on lit des témoignages sur les dissections auxquelles il procédait, et il explique clairement que passer des nuits entières au contact des cadavres n'était pas spécialement agréable, ne serait-ce que parce que il lui fallait beaucoup de temps pour les disséquer, et qu'il y avait des conditions de conservation difficiles, et que donc ça avait d'importantes contraintes. Donc il n'a pas fait ça par goût pour la dissection, mais simplement parce qu'il avait un souci de vérité particulièrement développé. Il voulait pouvoir retracer le moindre mouvement du corps humain dans sa plus grande réalité, sa plus parfaite réalité. Et on a de lui de très nombreux carnets, des milliers de pages qu'il a noircies, des croquis qu'il a réalisés, des croquis des muscles, des squelettes, les croquis du mouvement, des croquis de visage, qui lui servaient de base ensuite pour réussir à représenter l'homme de la manière la plus parfaite. Et il est l'auteur notamment d'un célèbre dessin, l'homme vitruvien. On voit cette représentation du corps parfait de l'homme qui est fondée sur le De Architectura de Vitruve, parce que le De Architectura de Vitruve non seulement évoque les proportions des bâtiments, mais il considère que les bâtiments, leurs proportions doivent être calquées sur celles parfaites du corps humain. Et donc, il y a toute une série d'informations sur la taille que doit avoir l'avant-bras par rapport au bras, que doit avoir le visage par rapport à la longueur globale du corps. Enfin, il y a tout un tas de proportions. Et ce sont ces proportions que Léonard de Vinci applique à la réalisation de cet homme vitruvien en 1490.
Alors, autre domaine d'expertise ou autre discipline, c'est le domaine des sciences. C'est aussi un grand inventeur. Dans quel domaine son génie s'est-il exprimé?
Dans le domaine de l'invention, c'est un génie tout à fait polymorphe, hein, qui s'est exprimé dans de nombreux domaines, que ce soit dans la mécanique, dans l'artillerie, dans la balistique, dans l'optique, dans l'hydrologie. Il a versé dans tous les domaines et il a réalisé des prototypes d'une variété incroyable de machines. Hein. L'hélicoptère, par exemple, il a réalisé un prototype d'hélicoptère, un véhicule à chenilles, des scies hydrauliques, un char d'assaut blindé, des machines volantes innombrables, des automates, des machines textiles. Alors évidemment, les spécialistes vous diront qu'aujourd'hui, si on essayait de faire fonctionner les inventions de Léonard de Vinci, ben son hélicoptère tournerait sur lui-même et il s'écraserait lamentablement, ses machines volantes ne voleraient pas, ses chars d'assaut ne rouleraient pas. Mais ce qui est le plus important, c'est pas qu'elle marcherait, c'est qu'il avait eu l'idée de réaliser ces machines. Alors, il s'était un peu inspiré de certains prédécesseurs, notamment Tacola ou Francesco Di Giorgio Martini, qu'il avait un petit peu copié, mais il avait développé leur pensée à un point qui n'avait encore jamais été atteint. Il était surtout fasciné par le vol, hein, le vol des oiseaux qu'il voulait permettre aux hommes de reproduire.
Là, nous sommes dans le monde véritablement de l'innovation, c'est-à-dire que la Renaissance se caractérise à proprement parler par ce sens de l'innovation et pas seulement par ce lien avec l'histoire antique.
Oui, en fait, c'est un peu... La Renaissance est un peu schizophrène, dans un certain sens, parce que les hommes de la Renaissance sont convaincus de la supériorité de l'Antiquité. Ils en sont intimement convaincus. Ils pensent qu'on ne peut pas la dépasser. Et d'ailleurs, ils ne cessent de le répéter, l'Antiquité est indépassable, c'est une perfection indépassable. Et pour autant, en même temps, de manière presque inconsciente au départ, puis plus consciente après, ils cherchent constamment à innover. Et donc cette tension un peu schizophrénique caractérise les hommes de la Renaissance. Et Giorgio Vasari, dans son histoire de l'art, dans sa vie des peintres, sculpteurs et architectes, lorsqu'il parle de Michel-Ange, eh bien, il le considère comme le seul qui pouvait avoir égalé les anciens. Il disait même pas dépasser, il disait égaler. Donc en fait, dans la pensée de la Renaissance, officiellement, au mieux, on peut égaler les anciens. Mais dans la réalité, on cherche constamment à les dépasser. Et Léonard de Vinci incarne ce dépassement.
Alors, nous avons parlé des techniques. Quid du domaine artistique? Est-ce qu'il développe aussi des innovations dans le domaine de la peinture?
Alors oui, Léonard de Vinci a notamment une technique picturale bien à lui, qu'il a développée, c'est celle du sfumato. Le sfumato, c'est un moyen de représenter une réalité de manière beaucoup plus fine que celle qui était au préalable pratiquée par les peintres. C'est-à-dire qu'il va noyer les contours des personnages qu'il représente dans ses toiles dans la vapeur de l'air, selon un dégradé subtil d'ombre et de lumière, qui fait qu'on a l'impression que les personnages ne sont pas plaqués sur le tableau, mais fondus dans le paysage. Par exemple, la Vierge au Rocher, qui est conservée au musée du Louvre, en est un exemple frappant. Alors que jusqu'à présent, des peintres émérites, pourtant, comme Raphaël, quand on regarde leurs œuvres, prenons par exemple la Madone du Belvédère, eh bien on a l'impression que la Vierge Marie, Saint Jean et l'Enfant Jésus sont comme collés sur la toile, on dirait un peu un autocollant qu'on a collé sur le fond. Et bien, ce n'est pas du tout le cas avec Léonard de Vinci. Ces personnages sont vraiment pris dans l'ambiance et c'est un peu ce règne du clair-obscur qui caractérise ces tableaux. Et puis, il y a un autre élément tout à fait central, il n'est pas le seul à le pratiquer cette fois-ci, mais il le pratique, c'est la composition triangulaire de ses œuvres. Hein? Quand on regarde les œuvres de Léonard de Vinci, et là, on voit que son travail a été pénétré par le fait mathématique, eh bien, la construction de ses œuvres montre que les personnages centraux peuvent être inclus dans un triangle qu'il soit isocèle ou équilatéral. Hein. On peut le remarquer notamment encore une fois dans la Vierge au Rocher, par exemple.
Mmh. Et c'est pour cette raison que la Joconde est considérée comme l'œuvre emblématique de Léonard de Vinci.
Non, c'est pas pour cette raison. Ce qui fait de la Joconde une œuvre emblématique, ce sont deux choses. La première, c'est que c'est un portrait. Or, vous savez que, on en a parlé plusieurs fois, l'une des caractéristiques de la Renaissance est de placer l'homme au centre du monde, et ce portrait se caractérise par son expression particulièrement profonde, ce regard, cette profondeur psychologique particulière, ce sourire, qui donne à la Joconde ce charme qui fait que on en a fait une œuvre emblématique de la Renaissance.
Donc, nous sommes véritablement au centre de l'humanisme.
Au centre de l'humanisme, parce qu'on est à la fois dans la résurrection d'un mode de représentation qui s'inspire de l'Antiquité, et parce qu'on est aussi dans un mode de représentation qui exalte la place de l'homme au centre du monde.
Nous n'en avons pas trop parlé lors des deux émissions précédentes, mais quelle est la place du religieux, malgré tout, et de la transcendance? Parce que on le voit avec les œuvres de Michel-Ange, les œuvres du Caravage. Elles sont en grande partie, certes, elles sont pour certaines tournées vers l'homme, mais d'autres sont tournées au fond vers le divin.
Alors oui, c'est pas parce que on place l'homme au centre du monde qu'on abandonne l'art religieux. Hein, les deux coexistent, les deux continuent à exister de manière parallèle. Ce qu'on peut observer, c'est que les œuvres religieuses sont caractérisées par le même souci de réalité physique, par exemple. Regardons le plafond de la chapelle Sixtine, c'est une œuvre religieuse, mais en même temps, dans le mode de représentation des corps, on a une œuvre de la Renaissance. Donc finalement, il y a une alliance à la fois du thème religieux et des techniques propres aux artistes de la Renaissance.
Alors, on ne peut évoquer le nom de Léonard de Vinci sans penser à François Ier et à la France. Pourquoi Léonard a terminé son existence sur notre territoire?
Alors ici, c'est totalement lié à l'histoire militaire, si je puis dire. François Ier a repris les objectifs de ses prédécesseurs, qui étaient de récupérer les territoires italiens que la France considérés être les siens, et notamment le Milanais. Et en 1515, François Ier remporte la bataille de Marignan. Il reste un moment en Italie. Il y rencontre Léonard de Vinci, qu'il réussit à convaincre de le suivre en France. Il l'installe à côté d'Amboise, dans le manoir de Clou, qui est aujourd'hui le Clos Lucé. Il lui donne le manoir de Clou. Léonard de Vinci n'est pas venu sans rien. Il a apporté la Joconde, notamment. C'est pour ça que la Joconde est au Louvre, hein, parce qu'il l'a apportée avec lui quand il est venu en France. Et il ne va pas y rester longtemps, parce que Léonard de Vinci est arrivé en 1516. Il est mort en 1519, donc il est resté un peu moins de 3 ans. Et pendant cette période, François Ier va lui confier la réalisation de certains spectacles, manifestations pour la cour. Et puis, alors, on a un peu de mal à savoir vraiment quelle influence Vinci a pu exercer pendant cette période, mais on sait par exemple qu'il a probablement inspiré l'escalier de Chambord, par exemple, voilà, et qu'il a servi aussi d'inspirateur à certains projets. Et la légende veut qu'il serait mort dans les bras de François Ier au manoir de Clou en 1519. Alors en fait, il n'en est rien, hein, on sait très bien qu'il n'est pas mort dans les bras de François Ier, mais le simple fait qu'on ait construit cette légende montre la proximité des deux personnages et à quel point il était important pour François Ier de l'attirer dans le royaume.
Eh bien, merci beaucoup Hugues Dossy pour cette présentation de ce personnage fascinant. Je renvoie nos auditeurs aux deux autres émissions si vous ne les avez pas écoutées. L'art de la Renaissance, l'inspiration antique, et l'art de la Renaissance, le sens de l'innovation, que nous avons enregistré ensemble. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.